Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans deux concepts qu'on utilise tous les jours, mais bon, qui sont souvent un peu flous, hein. Température et chaleur.
Oui, bonjour. C'est vrai qu'on les confond facilement.
On va essayer de démêler ça, de voir ce que c'est vraiment, comment ça interagit avec la matière. On a pas mal d'infos pour creuser un peu. Prêt?
Allons-y.
Et la base, vraiment la chose essentielle à piger, c'est cette différence, hein. La température, c'est une mesure de l'agitation interne, microscopique.
L'agitation des molécules, c'est ça?
Exactement. Alors que la chaleur, ben c'est différent. C'est de l'énergie qui circule, qui passe d'un système à un autre.
Ah, d'accord. Souvent à cause d'une différence de température, j'imagine.
Tout à fait. C'est ça le moteur, en général. Bon, alors, commençons par cette agitation, la température. Comment on la mesure concrètement? On a les thermomètres, bien sûr, mais le principe derrière.
C'est ça. Le thermomètre, il se base sur une propriété physique qui change avec la température. Le plus souvent, c'est la dilatation. Un liquide qui prend plus de place quand il chauffe, par exemple.
Ah oui.
Et pour mettre un chiffre dessus, on utilise des échelles. Les plus connues, bah, c'est Celsius et Kelvin.
Celsius, ok, pour tous les jours. Et Kelvin, plus pour la science.
C'est ça. L'échelle Kelvin, on dit qu'elle est absolue. Elle part du zéro absolu.
Le fameux zéro absolu. Le point où plus rien ne bouge. C'est ça, théoriquement.
Voilà, c'est la limite basse, la température la plus froide possible, où toute agitation thermique s'arrêterait. Zéro Kelvin.
Impressionnant. Et pour passer de l'un à l'autre, de Celsius à Kelvin, c'est juste un décalage.
Exactement. On ajoute environ 273 au degré Celsius et on a les Kelvin. C'est simple, mais le Kelvin, c'est plus fondamental car c'est directement lié à l'énergie cinétique moyenne des particules.
D'accord, compris. Alors, si on chauffe un truc, sa température monte et souvent il grandit un peu, hein? C'est ça la dilatation.
Précisément, la dilatation thermique. Ça peut être en longueur, pour une barre de métal, on parle de dilatation linéaire.
Ok.
Ou alors en volume, pour un liquide ou un gaz, dilatation volumique.
Et il y a des coefficients pour ça, pour savoir de combien ça se dilate?
Oui, chaque matériau a ses propres coefficients. C'est super important en ingénierie, hein. Pense aux ponts.
Ah oui, les joints sur les ponts, pour laisser de la place quand ça chauffe en été.
Exactement, pour éviter que ça ne se déforme ou ne casse. C'est aussi ce principe qui faisait marcher les anciens thermostats avec une lame qui se courbe.
C'est vrai. Et l'eau, alors? Elle est spéciale, il paraît.
Ah oui, l'eau, elle est unique. Entre 0 et 4 degrés Celsius, quand on la chauffe, au lieu de se dilater, elle se contracte.
Ah bon? C'est contre-intuitif, ça.
Carrément. Et c'est crucial. C'est pour ça que la glace flotte. Elle est moins dense que l'eau liquide à 4 degrés Celsius et que les lacs gèlent par le dessus. Ça protège la vie en dessous. Une vraie anomalie, mellitale.
Fascinant, en effet. Bon, passons à la chaleur. On a dit énergie en transit, c'est cette énergie qui fait monter la température ou qui provoque la dilatation. Comment on mesure cette énergie qui passe?
Alors là, on parle de quantité d'énergie. L'unité officielle, c'est le joule, mais on utilise encore beaucoup la calorie, surtout en diététique, par exemple.
Joules, calories, d'accord. Et ce transfert d'énergie, ça dépend de quoi, ça?
Ça dépend de la substance. Pour augmenter la température d'un objet d'un certain nombre de degrés, il faut lui fournir une quantité de chaleur bien précise. C'est sa capacité thermique.
D'accord.
Et si on rapporte ça à la masse, 1 kg par exemple, on parle de chaleur spécifique. C'est une propriété du matériau.
Donc si je comprends bien, certains matériaux boivent la chaleur plus facilement ou en demandent plus pour chauffer.
C'est un peu l'idée, oui. L'eau, par exemple, a une chaleur spécifique très élevée.
Ah oui.
Ça veut dire qu'il faut beaucoup d'énergie pour augmenter sa température. C'est pour ça qu'elle est si efficace pour réguler le climat près des côtes ou même la température de notre corps.
Logique. Et on mesure ça comment, ces échanges?
Avec un appareil spécial? Oui, avec un calorimètre. En gros, c'est une boîte isolée où on met des objets à différentes températures et on regarde comment la chaleur passe de l'un à l'autre jusqu'à ce qu'ils atteignent la même température, l'équilibre thermique.
D'accord. Et cette chaleur, elle ne fait pas que chauffer, elle peut carrément changer l'état de la matière, non? Solide, liquide, gaz?
Absolument. Ce sont les changements d'état. On a la fusion, solide vers liquide.
Comme la glace qui fond.
Voilà. La solidification, l'inverse, liquide vers solide, puis la vaporisation, liquide vers gaz, ça peut être l'ébullition à une température précise, ou l'évaporation, plus lente, à la surface.
Comme le linge qui sèche.
C'est ça. Et puis la condensation, gaz vers liquide, et il y a même la sublimation directe de solide à gaz.
Ah oui, la neige carbonique.
Par exemple. Et l'inverse, le dépôt de solide depuis un gaz, qu'on appelle parfois condensation solide, ou givrage.
Et ça se passe à des températures fixes, ces changements d'état, comme 0 degré Celsius pour la fusion de la glace, 100 degrés Celsius pour l'ébullition de l'eau?
Oui, pour une pression donnée, ces températures sont fixes. Température de fusion, température d'ébullition. Mais le truc vraiment important et un peu bizarre au début,
oui,
c'est que pendant le changement d'état, la température, elle ne bouge pas.
Ah bon? Si je continue de chauffer de l'eau qui bout, elle reste à 100 degrés Celsius?
Exactement. L'énergie qu'on apporte à ce moment-là, la chaleur, elle ne sert plus à augmenter l'agitation des molécules, donc la température. Elle sert à casser les liaisons entre les molécules pour passer à l'état gazeux.
D'accord.
C'est ce qu'on appelle la chaleur latente. Chaleur latente de fusion, chaleur latente de vaporisation, et c'est souvent une quantité d'énergie énorme. Il faut beaucoup plus d'énergie pour transformer 1 kg d'eau liquide à 100 degrés Celsius en vapeur à 100 degrés Celsius que pour chauffer ce même kilo d'eau de 0 degré Celsius à 100 degrés Celsius.
Incroyable. C'est pour ça que la vapeur brûle si fort.
Entre autres, oui. Et c'est aussi ce mécanisme d'évaporation et de chaleur latente qui nous refroidit quand on transpire. L'eau qui s'évapore sur notre peau pompe de la chaleur de notre corps.
Eh bien, c'est beaucoup plus clair maintenant. Donc, on a la température, mesure de l'agitation. Et la chaleur, l'énergie qui se transfère. Elle fait monter la température, elle provoque la dilatation et elle permet les changements d'état grâce à cette chaleur latente qui agit à température constante. C'est fou de voir comment tout ça est lié et régit presque tout autour de nous.
C'est exactement ça. C'est passionnant parce que ça touche à tout. Du fonctionnement des étoiles où les températures et les énergies sont extrêmes jusqu'à la simple tasse de café qui refroidit sur la table. Tout est une question d'énergie thermique, d'agitation et de transfert.
Ouais.
Et ça ouvre peut-être une dernière porte. Si la chaleur est de l'énergie en transit et qu'elle peut provoquer tous ses effets, comment cette énergie se conserve-t-elle globalement? Comment elle se transforme d'une forme à une autre, par exemple en travail mécanique ou inversement? C'est tout le domaine de la thermodynamique qui explore ces lois fondamentales de l'énergie dans l'univers. Une question sans fin, ou presque.